Les saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges, ô reine des cieux. Ave, ave, ave Maria, ave. Ave, ave Maria. Alors voilà que nous sommes dans ce jardin pour notre deuxième temps d'enseignement pour nous préparer à recevoir le sacrement de la confession. Sur notre feuille, il y a une question qui est posée en gras. Qu'est-ce que se confesser? Et la réponse est la suivante. C'est dire ses péchés à un prêtre pour recevoir l'absolution. Et il y a marqué en gros, il y a donc deux choses à faire, retrouver ses péchés et les regretter. Alors pour retrouver ses péchés, si vous ouvrez cette feuille, il y a ce que l'on appelle un examen de conscience. Examen, ça vient du verbe examiner. Qu'est-ce que je dois examiner ? Ma conscience. Et qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, c'est la mémoire, c'est pas faux. Ce n'est pas que la mémoire, si je me rappelle que 2 et 2 font 4, par exemple, c'est pas forcément ma conscience. Mais ça a un rapport à la mémoire, la conscience.
La mémoire du Christ.
Alors, c'est pas la baignoire, la mémoire. Non, c'est pas ça, mais c'est bien d'avoir essayé de répondre, Madison. Alors, qui d'autre a une idée de ce qu'est la conscience? Oui?
Ce qu'on pense.
Ce qu'on pense, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Pinocchio?
Oui.
Le film de Walt Disney. Eh bien, dans ce dessin animé, il y a un personnage qui représente la conscience de Pinocchio.
Oh, la fée.
C'est pas la fée. C'est le cricket, Jiminy Cricket se présente comme la conscience de Pinocchio. Parce que vous savez que Pinocchio, il va être tiraillé entre la vérité et le mensonge, la désobéissance de celui qui va devenir son père, Geppetto, et à un moment donné, il y a également une discussion intérieure à Pinocchio, qui est représenté par deux personnages, pas par Jiminy, cette fois-ci, Cricket, mais par deux personnages. Un qui va lui présenter des choses bien à faire, et l'autre qui va lui présenter plutôt les choses mauvaises à faire. Est-ce que vous vous rappelez dans ce film, qu'est-ce qui est représenté dans ces deux personnages et alternatives, Mélodie? L'ange gardien et le démon, à un moment donné, Pinocchio est tiraillé. Est-ce que je vais faire le bien? Et l'ange lui dit pourquoi il faut faire le bien. Et puis après, il y a le démon qui lui dit non, non, il faut faire le mal, c'est beaucoup plus intéressant, etc. Et bien, la conscience, c'est cette instance que nous avons en nous-mêmes qui nous permet à la fois de poser des choix et des actions, et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, dans la cour de récréation, lorsque, par exemple, vous vous disputez, soit vous pouvez laisser votre instinct « on m'attaque, du coup je réplique », « on m'insulte, je vais moi aussi rentrer dans la logique de l'insulte », soit, par un acte délibéré de ma conscience, je vais poser une action meilleure, soit en essayant de rechercher la paix, soit en essayant de trouver un terrain d'entente. Donc, vous voyez que la conscience, elle agit chaque fois que nous opérons des choix et des décisions. Mes parents m'appellent pour vider le lave-vaisselle ou pour mettre la table. Je sais que je dois mettre la table, ça fait partie de mes devoirs. Et je fais mine de ne pas les entendre. Une fois, et maman répète. Deux fois, trois fois. Puis du coup, on va demander à papa de venir faire en sorte qu'on vienne enfin mettre la table. Mais voyez, j'ai fait le choix de faire exprès de ne pas entendre. Et finalement, ce n'était pas un bon choix. Pourquoi? Parce que je vais énerver ma mère, je vais énerver mon père, et finalement, ce qui aurait pu être fait rapidement pour revenir faire ce que j'avais envie de faire, du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps et d'autres proportions. Eh bien, nous avons chacun une conscience. Et cette conscience, elle est alimentée par le bien qu'il nous faut faire et le mal que souvent on se laisse aller à faire. Donc du coup, quand on dit qu'on a deux choses à faire pour retrouver ses péchés et les regretter, il faut qu'on examine notre conscience, c'est-à-dire dans notre mémoire, quelles sont les mauvaises actions que j'ai posées et du coup, quelles sont celles aussi que je regrette dans le même temps. Et nous avons alors une liste. Ce n'est pas une liste pour vous donner des idées de péché. « Ah tiens, je n'ai pas eu idée de faire ce péché, moi. Je vais le faire demain. » Non. Ce sont des questions qui sont posées pour que chacun, nous puissions répondre dans notre conscience et que nous puissions alors, tout à l'heure, accuser nos fautes dans ce sacrement. Alors, cet examen de conscience, il reprend tout d'abord les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, dont le premier dit ceci, « Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout. » C'est le premier commandement, aimer Dieu. Et il y a du coup des questions qui nous sont posées. Alors, je ne vous demande pas de répondre maintenant à ces questions, mais en les entendant, en les approfondissant chacun, eh bien, on pourra tout à l'heure, vous voyez, il y aura des lignes, on pourra avoir un stylo pour essayer de marquer des choses, etc., préparer sa confession pour accuser ses péchés. Alors, ce commandement, tu adoreras Dieu seul, le verbe adorer, parce que parfois aujourd'hui on entend j'adore le chocolat, j'adore ci, j'adore ça, bien sachez que le verbe adorer, c'est le mot, le seul mot que nous ayons dans notre langue française si riche pour parler de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu est ce que nous appelons l'adoration. J'adore Dieu seul. Donc déjà, vous voyez que chaque fois qu'on dit « j'adore ci, j'adore ça », eh bien, c'est finalement manquer de respect à Dieu sans forcément s'en rendre compte. Parce que le verbe « adorer », je n'adore que Dieu seul. Alors, du coup, adorer Dieu seul et l'aimer plus que tout. Et voilà les questions qu'on peut se poser. Ai-je manqué mes prières du matin et du soir ? Vous savez que nous devons chacun prier. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une définition rapide de ce qu'est la prière ? Madison.
Notre Père est ici.
Alors ça, c'est un bon exemple de prière, la prière du Notre Père, d'accord. Qui d'autre ? Alors, la prière du Je vous salue Marie, moi je ne vous demande pas quelle prière connaissez-vous par cœur, je vous demande qu'est-ce que c'est que prier ? Alors, à qui ?
À Dieu.
Ah, d'accord, parce que ça ne marche pas avec maman, si je dis pardon à maman, ou d'accord. Alors, effectivement, donc c'est des demandes ou des excuses, etc. Plus fondamentalement encore, bien que ce soit très juste, Timéo ?
D'adorer le Seigneur.
Oui.
Adorer encore plus le Seigneur.
D'accord. Karen ? Ah, voilà, c'est pour lui parler. Prier, voilà la définition extrêmement simple qu'il nous faut retenir. Qu'est-ce que c'est que prier ? Prier, c'est parler à Dieu. Mais attention, quand je parle à mon copain, à ma copine, ben, il faut aussi que je l'écoute à un moment donné. Parce que sinon, je fais un monologue, je parle et je ne lui laisse jamais la possibilité de répondre. Ce n'est pas avec ça qu'on va se faire des amis. Donc quand on dit que prier, c'est parler à Dieu, c'est effectivement, comme nous l'a dit la jeune demoiselle, nous avons des demandes à lui faire, donc des s'il te plaît. On a également des choses qu'on regrette, c'était pardon, et puis des actions de grâce pour le remercier. Vous voyez, par exemple, on peut le remercier pour ce jardin, du moins pour la beauté de sa création, de sa nature, pour le soleil, pour avoir nos parents, pour avoir une famille aimante, etc. etc. Donc, prier, c'est parler à Dieu. Et nous avons chacun cette possibilité de nous adresser à Dieu. Et le chrétien, eh bien, il doit penser à Dieu. Vous avez peut-être vu des fois en voiture qu'il y a des croix sur les bords de la route, qu'il y a des statues de la Vierge Marie. Eh bien, pourquoi elles sont là, ces croix et ces statues ? Pour nous rappeler que sur les chemins que nous empruntons pour faire notre vie, pour amener les enfants à l'escalade, pour aller chercher son pain, pour aller à l'école, c'est pour nous rappeler qu'il y a Dieu qui est bien présent au cœur de notre vie. Et donc du coup, cette question, elle est importante. Je dois adorer Dieu seul. Mais du coup, est-ce que je lui parle? Est-ce que j'entretiens mon amitié avec Dieu? Vous savez, si on a un copain ou une copine à l'école à qui jamais on adresse la parole, ben, ce n'est pas vraiment notre copain ou notre copine. L'ami, on va lui confier des secrets, on va lui confier nos difficultés, on va vivre de bons moments avec lui. Bien, c'est ce que nous avons à faire en premier lieu avec Dieu. Donc, est-ce que je suis fidèle à ma prière? Est-ce que je prie bien le matin, le soir? Est-ce que parfois je fais mal mes prières? Parce que je peux les faire très vite. Un signe de croix très rapide, qui ressemble à rien. Notre Père qui est au-dessus, sans penser un instant à ce que je dis. Ou je ne fais que trop parler et jamais je laisse un temps de silence pour que Dieu puisse me répondre dans le secret de mon cœur, etc. Ensuite, dans cette catégorie de péché, me suis-je mal tenu à l'église? Si j'ai fait que discuter avec mon voisin ou ma voisine, jouer avec la pièce pour comment donner pour faire la quête, est-ce que j'ai rien écouté, etc. Est-ce que j'ai dissipé les autres? Eh oui, parce que du coup, si pendant qu'on est en train de prier au catéchisme, à la maison, ou je ne sais où, et que du coup je me mets à parler aux autres, c'est comme, et c'est même ça, c'est je coupe la parole entre Dieu et la personne qui est en train de prier. Vous savez qu'à la maison ou à l'école, on vous a dit qu'on ne devait pas couper la parole pour respecter les personnes qui parlent. Eh bien, si j'empêche quelqu'un de prier, ou je le distrais à ce moment-là, c'est comme si je coupais la parole qu'il y a entre Dieu et moi. Ai-je eu honte de paraître chrétien? Peut-être à l'école, des fois on me dit « Ah ben toi t'es chrétien, tu vas au catéchisme, etc. » Puis vous savez que les chrétiens n'ont pas le vent en poupe en ce moment, et donc parfois on peut avoir honte d'être chrétien. Est-ce que j'ai tenu des conversations parfois contre la religion? Parce que parfois à l'école, et ne croyez pas que parce que vous êtes petit, les adultes, ça n'arrive pas, on va se dire « Tiens, on va jouer à tel jeu, on va plutôt invoquer le démon, la dame blanche, ou faire des choses comme ça un peu mauvaises. » On voit qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui vont dans les églises pour faire n'importe quoi, il n'y a pas très longtemps encore, des enfants qui sont venus pour casser la croix dans l'église. Voilà, alors on les a conduits ensuite au commissariat, etc. Mais je dis ça déjà parce que parfois, dans nos conversations à l'école, on peut également manquer de respect à Dieu, etc. Deuxième commandement. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Ben vous savez, des fois, il y a l'expression qui dit nom de Dieu. Ben ça, c'est manquer de respect à Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière du Notre Père concernant le nom? Il y a une demande bien particulière dans le Notre Père qui concerne le nom de Dieu. Tout le monde le connaît, son Notre Père, par cœur. Il devrait y avoir tous les doigts levés. Dans cette prière, qu'est-ce qui concerne le nom? Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom, alors le nom c'est l'être de Dieu, tout ce qu'est Dieu, soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit rendu saint. Ben, si je commence à invoquer en vain le nom de Dieu, pour tout et n'importe quoi, je lui manque de respect. Vous savez, des fois dans les insultes, on en vient à manquer au respect de la mère, en disant des expressions pas très folichonnes. Je ne vais pas vous les dire parce que je pense que vous comprenez à quoi je pense. Eh bien, c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Et du coup, c'est comment est-ce que je parle de Dieu? Mais dans ce commandement, il peut y avoir tout un tas d'autres choses. Parce que, est-ce que je dis des gros mots? Vous savez que vos parents, quand ils vous élèvent, même à l'école, eh bien, nous invitent à ne pas dire de gros mots. Parfois, dans la vie quotidienne, on en entend. Et si souvent les enfants les savent, c'est aussi parce qu'ils les ont entendus, même à la maison. Mais du coup, on ne doit pas dire ça. Pourquoi? Parce que est-ce que je suis fait ici-bas sur la terre pour dire des gros mots? Ben non. Je ne suis pas mis sur la terre pour dire des gros mots, c'est-à-dire pour insulter les autres, pour les salir en fait. Les gros mots, c'est comme si je prenais des saletés et que je leur jetais dessus. C'est la même chose, sauf que je le fais en parole. Je ne le fais pas en acte. Donc du coup, est-ce que j'ai dit des gros mots, des jurons? Est-ce que j'ai fait des serments? C'est-à-dire j'ai fait des promesses et je ne les ai pas tenues. Ça veut dire j'engage ma parole et tout mon être. Oui, je te le promets, mais je ne tiens pas la parole. Vous savez, ceux qui connaissent bien le message de Lourdes, qu'on apprend petit à petit au catéchisme, quand Bernadette, la Vierge lui a demandé « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Qu'est-ce qu'a répondu Bernadette? Elle n'a pas dit oui, justement, mais elle a dit « Je le promets ». Et elle a toujours tenu, malgré les enquêtes du commissaire, du procureur, elle a toujours tenu sa promesse. « Je l'ai promis ». Et nous, parfois, on promet des choses un peu à la légère. À nos parents, à nos camarades, quand on promet de tenir un secret et qu'on va le dire à quelqu'un d'autre, ben c'est aussi des péchés. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Cela veut dire, eh bien, le dimanche, assister à la messe. Ai-je manqué, par ma faute, la messe le dimanche? Ça veut dire le bon Dieu, vous savez que notre semaine, elle est divisée en
7 jours.
Et chaque journée comporte combien d'heures?
24 heures.
Merci Romain. On voit que c'est un fils de comptable, il a les chiffres. Eh bien, dans cette journée, non seulement je dois quand même prier dans ma journée pour penser à Dieu, mais sur ces 7 jours, le bon Dieu nous demande le dimanche de sanctifier ce jour-là. C'est-à-dire de ne pas travailler, c'est-à-dire d'aller à la messe pour, eh bien, avoir ce contact avec le Seigneur qui vient pour me rencontrer, qui vient dans la communion pour me donner la nourriture, sa nourriture, sa présence, et qui vient m'aider également à être meilleur. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Eh bien, déjà, ça commence en allant à la messe le dimanche. Parce qu'à la messe le dimanche, en écoutant les lectures qui sont issues de la Bible, en écoutant l'homélie, je me remets en question et je réactualise un peu cette amitié entre Dieu et moi. C'est comme si on avait un copain à la cour de récréation ou à l'école qu'on ne voit plus. Alors on ne lui parle plus, on ne prie pas, et en même temps on ne va jamais le voir. Ben, du coup, est-ce que ça reste un ami, ça?
Non.
Ben non, parce que l'ami, on a besoin d'entretenir toujours cette amitié. Et parfois, on peut avoir des amis très bons, très chers, qui sont très loin, avec qui on garde une grande intimité. Quand on les revoit, c'est comme si on ne les avait pas quittés. Mais avec Dieu, il faut garder ce fil. Parce qu'il ne faut pas qu'au dernier jour, eh bien, on soit étranger à Dieu. Non pas que Dieu ne nous connaisse pas, mais que nous, nous n'ayons pas eu le bonheur ici-bas d'apprendre à le connaître. Donc du coup, la question est posée, est-ce que j'ai manqué par ma faute la messe le dimanche? Alors vous n'êtes pas majeur, ce n'est pas toujours de votre faute, mais je pense que si vous manifestiez à vos parents le désir d'aller à la messe, je ne suis pas sûr qu'ils refuseraient. Ensuite, quatrième commandement. Voilà un commandement très important. Tu honoreras ton père et ta mère. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ai-je désobéi à mes parents? Eh bien, figurez-vous que l'autorité de Dieu sur la terre, elle passe par l'autorité de nos parents. Elle passe par cette même autorité de notre instituteur ou de notre institutrice, de nos grands-parents, des personnes qui sont supérieures à nous par l'âge, par le prêtre, par tout un tas de personnes ainsi, eh bien, à qui nous devons le respect. Et en premier lieu, nos parents. D'où la question, ai-je désobéi à mes parents? Mais du coup, on l'entend aussi, grands-parents, les grands-frères, quand ils exercent justement leur autorité, parce qu'ils sont aussi les yeux des parents. Alors parfois, les grands-frères ou les grandes-sœurs, ils nous font faire des bêtises. Hein. Mais ça veut dire que du coup, non seulement vous, vous êtes coupable parce que vous avez quand même une conscience pour se dire, tiens, c'est bizarre qu'il me fait faire ci ou ça. Mais du coup, le grand-frère, il fait des fautes encore plus grandes. Parce qu'à cause de son péché, il fait pécher son frère ou sa petite sœur. Donc s'il y en a par ici, parmi nous qui sont grands frères ou grandes sœurs, ils ont une responsabilité supplémentaire. Parce qu'ils incarnent le bon exemple pour le frère, pour le petit frère ou pour la petite sœur. Parce que souvent le petit frère ou la petite sœur, il regarde son frère, son grand frère ou sa grande sœur comme l'exemple. Et quand ils se font gronder, mais pourquoi tu as fait ça? Mais il l'a fait, mon frère. Comme si c'était un exemple à suivre. Donc, ai-je désobéi à mes parents? Est-ce que je leur ai mal répondu? Parfois, rien qu'un regard suffit pour que nos parents nous disent « Baisse tes yeux effrontés » parce que les parents voient dans notre regard qu'on n'a pas de bonne intention à leur endroit. Est-ce que je me suis moqué de mes parents, de mon maître, de mon instituteur, etc.? Parce que du coup, se moquer d'eux, c'est leur manquer de respect, forcément. Est-ce que je leur ai fait la tête? Est-ce que j'ai fait du mauvais esprit? Puis du coup, là, il y a toutes les choses de la vie quotidienne. Hein. Est-ce que j'obéis promptement, c'est-à-dire tout de suite, quand on me rappelle à l'ordre? Est-ce que j'ai toujours besoin que mon père ou ma mère me rappelle 15 fois les mêmes choses? Ou est-ce que je mets de la bonne volonté? Il y a tout un tas de choses dans ces commandements-là. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Alors vous allez me dire, ça, je suis tranquille. Je n'ai pas encore utilisé de couteau, de pistolet pour tuer quelqu'un, etc. Mais nous avons chacun des armes.
Ah oui, la langue, les gros mots.
Ah, par la langue, on peut également bien tuer des personnes, parce qu'on peut se moquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à l'école, toujours de la même personne qui devient un peu le bouc émissaire de l'école, de la classe. Et du coup, je rentre dans cette logique de meute, et du coup, je ne fais pas le bien. Ça peut être difficile parfois dans la cour de récréation ou dans l'ambiance de la classe. Parce que du coup, on va fédérer un groupe contre une autre personne, ou contre un groupe d'autres personnes. Et on va se moquer d'elle parce qu'elle a des lunettes, ou parce que ceci, ou parce que cela. Enfin, je sais pas, j'ai des lunettes, moi, c'est un exemple. Hein. Et on va se moquer, et puis du coup, un va se moquer, deux, trois, quatre, cinq. Mais est-ce qu'on pense un instant à la personne de qui on se moque? Est-ce qu'on aimerait être à sa place?
Non.
Ben voilà. Donc du coup, on peut, par notre langue, eh bien, faire beaucoup également de mal. D'où les questions. Me suis-je disputé avec les autres? Est-ce que j'en ai gardé de la rancune? Qu'est-ce que ça veut dire, la rancune? Être rancunier. Parfois, nos parents nous disent « Ouh, qu'est-ce qu'il est rancunier ?» Timéo.
Il est désobéissant.
Non, rancunier, ça veut pas... Oui, alors, c'est une... Mais ça veut pas dire ça, être rancunier. Oui. Quand on en veut à quelqu'un pendant longtemps, mes parents m'ont grondé, je sais qu'ils avaient raison, mais ils m'ont quand même grondé, et du coup, je vais continuer à faire la tête mordicus sans changer d'état d'esprit. Il y en a qui sont rancuniers, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment garder rancune de ça, ou à l'école, un tel m'a fait ça un jour, il m'a fait un croche-pied un jour, ben du coup, je ne lui parle pas pendant des mois et des mois parce que je n'arrive pas à quoi faire à la fin. À lui, pardonner. Et bien à la prière du Notre Père, qu'est-ce que nous dit le Seigneur au sujet du pardon? Il y a une phrase dans le Notre Père sur le pardon. Voyons si Madison la connaît. Pardonne-nous nos offenses. Exactement. Pardonne-nous, on demande à Dieu nos offenses, c'est-à-dire nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc on voit que si on reste rancunier, c'est-à-dire, oui, ils avaient peut-être raison, mais je lui fais la tête pour toujours, ou alors pour très longtemps, oui, mais ça, ce n'est pas un bon exercice. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous dit le Seigneur de notre Père? Si vous voulez recevoir le pardon des péchés avec Dieu, il faut d'abord vous pardonner également les uns les autres. Parce que vous voyez, en allant à la messe régulièrement, en se confessant régulièrement, on se rend compte qu'on n'est pas toujours le meilleur ou la meilleure, qu'on fait également des fautes. Oui, non, mais ça, oui, c'est vrai, merci Madison de le dire. Que du coup, on s'entraîne à quoi? À une vertu très importante qui est l'humilité. Plus je me confesse et plus j'examine ma conscience, plus je me rends compte que je ne suis pas toujours le meilleur, et du coup, je suis beaucoup plus souple avec les autres. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Pardonne-nous nos offenses, donc nos péchés, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait des péchés contre nous. Et il faut s'entraîner ici-bas à pardonner, parce que c'est la condition pour nous pour aller au ciel. Si je ne pardonne pas, je ferme mon cœur. Et la rancune risque de nous fermer complètement à notre cœur. Donc il faut essayer, petit à petit, d'être plus indulgent avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir la vérité ni le bien, mais ça veut dire qu'il y a une attitude qu'on doit avoir ensuite de pardon. Et un jour, Saint-Pierre, qui entend souvent Jésus parler du pardon, lui demande « Mais Seigneur, combien de fois faut-il pardonner par jour ?» C'est une bonne question. Je veux dire, bon, mais voilà. Et Jésus lui répond « Jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ça veut dire une fois toutes les 3 minutes. Vous rendez-vous compte? Si ça doit faire partie de la tonalité du chrétien. Alors ça ne veut pas dire que le chrétien doit être comme un paillasson qu'on doit toujours écraser, hein, qui doit abdiquer ce en quoi il croit, etc. Mais ça veut dire que le chrétien, il doit se caractériser justement par le fait qu'il ne doit pas être rancunier. Et c'est souvent très difficile. Et c'est souvent en laissant Dieu nous aider à parcourir en nous le chemin du pardon qu'il va nous donner la force, le temps aidant, de pouvoir être capable de pardonner. Mais ça, les adultes savent que ça peut être un long chemin, mais si on met Dieu de son côté, on peut y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas raison à la fin, mais ça veut dire qu'on a suffisamment fait de chemin pour lui dire « Je passe maintenant à autre chose ». Sinon, on reste toujours à ressasser les mêmes choses. Donc, me suis-je disputé avec les autres et je gardais rancune? Ai-je cherché à me venger? Ah, parce que des fois, à la cour de récréation, quand je me dispute, il m'a fait ça, il m'a donné un coup de pied, par exemple, et moi, je vais lui en donner 4 ou 5. Alors là, on entre dans un engrenage. Il y a dans l'Ancien Testament une règle qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que Dieu rappelle qu'il faut d'abord une certaine équité dans les peines. Tu m'as cassé une dent, je ne vais pas te cacher la mâchoire en réparation. Je vais t'en casser une, moi aussi. Tu m'as crevé un œil, je ne vais pas te crever les deux. Je vais t'en crever un. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit le faire aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu, pour nous apprendre à nous améliorer, il use de pédagogie. Il ne nous dit pas qu'il faut être saint immédiatement, tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on continue à avoir de mauvaises pensées, parce que, etc., etc. Mais c'est petit à petit qu'on doit apprendre déjà à ne pas entrer dans la vengeance, dans toujours répliquer davantage que ce que l'on m'a fait. Donc vous voyez, il peut y avoir des péchés comme ça, parce que du coup, à la récréation, on m'a fait ça, mais du coup, moi, je vais faire beaucoup plus, puis je vais aller chercher mes copains, puis je vais finir par lui refaire tout le portrait pour une petite histoire, finalement, de broutille. Ai-je donné le mauvais exemple ? Ça vaut notamment pour les grands frères et les grandes sœurs, ou à l'école, parce qu'il y a aussi à l'école, dans nos amis, il y a souvent un chef de troupe. Ça, c'est très naturel. L'homme, il y a toujours dans un groupe, il y a toujours plus ou moins un chef, un leader, quelqu'un qui donne l'exemple et le ton. Et donc, il faut réfléchir à l'école. Est-ce que par rapport à mes amis, je suis plutôt le leader, c'est toujours moi qui décide ce qu'on fait, quand on le fait, etc. Est-ce que je suis un tyran, c'est moi qui commande toujours tout? Ou, est-ce, et du coup, si c'est le cas, est-ce que je donne le bon exemple? Je peux m'en servir pour faire le bien, mais je peux m'en servir pour faire le mal. Du coup, la question suivante, ai-je entraîné d'autres à pécher? Allez, viens, lui, il m'a embêté, maintenant on va aller lui casser la gueule, la figure. Et du coup, j'entraîne les autres à pécher. Sixième et neuvième commandement, tu ne feras pas d'impureté, tu n'auras pas de désir pur involontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on peut faire beaucoup de péchés avec nos yeux. La façon dont je regarde les autres. Alors certains me diront, les enfants sont bien jeunes, que nenni. Parfois, les garçons sont attirés par les filles, même s'il y en a ici qui sont encore un peu jeunes. Alors du coup, on va toujours essayer de regarder les filles, regarder leur forme, etc. Ou sur Internet, même si il y a la sécurité parentale, etc. Ou je ne sais quoi encore, où on va mal parler des filles quand on est parmi les garçons, ou mal parler des garçons avec les filles, ou parler de choses dont on n'aimerait pas que nos parents sachent que nous en parlions. Ça, c'est souvent un bon critère. Est-ce que ce que je suis en train de dire, j'aimerais que mon père ou ma mère le sache? C'est souvent un bon critère. Donc du coup, je peux avoir, du coup, d'abord, est-ce que je peux regarder de mauvaises images sur Internet? Et ça devient tellement facile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ces désirs impurs? Oui, ensuite, oui, donc ça, c'est donc il y a deux commandements, hein. Du coup, c'est tous ces actes du coup, que je peux faire. Parce qu'il y a regarder les images et ensuite il peut y avoir tout un tas de choses que je vais faire. D'abord, ça peut me perturber. Puis je peux les montrer à d'autres. Et puis ensuite, je peux en parler. Et puis finalement, je suis en train de salir l'homme ou la femme tels qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il faut être très prudent parce que si vos parents vous interdisent un certain nombre de choses, ce n'est pas que pour le plaisir de vous interdire, mais c'est aussi parce que quelle est la grande mission de vos parents, je l'ai dit tout à l'heure.
Nous élever.
Et du coup, s'ils vous protègent d'un certain nombre de choses, c'est pas pour le plaisir de vous interdire, mais c'est parce qu'ils veulent justement vous élever et pas faire de vous ensuite des animaux ou des gens qui n'ont plus de conscience. Parce que ça va tellement vite d'oublier et d'étouffer la voix de sa conscience, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, septième et dixième commandement, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Alors ne pas voler, on comprend. Même le stylo, la gomme du voisin, de la voisine. Oui. Ou le goûter. Non, mais ne faites pas « oh ». Mais voilà, ça c'est mieux déjà. Mais voyez, dans le fait de voler, il y a aussi avant un problème d'œil. C'est-à-dire, je commence à regarder ce qu'ont les autres, à en être envieux, à me dire « mais moi aussi je voudrais ce stylo rouge » ou « ben moi, j'ai pas l'argent pour acheter les bonbons, je vais les piquer pendant que la boulangère elle a le dos tourné, etc. » Est-ce que c'est bien de voler? Non. Est-ce que vous connaissez l'expression qui vole un œuf vole un bœuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sens à ça. Qui vole un œuf vole un bœuf. Timéo.
Ça veut dire que tu vas voler une petite chose, par exemple.
Oui, enfin, un œuf.
Un œuf. Ou même moi, un petit haribo comme ça.
Oui, d'accord, oui.
Tu vas voler encore plus gros. Encore plus gros.
Ah, alors déjà, ça, vous avez raison.
Encore plus gros.
La première partie de ce proverbe est en train de nous dire que je vole, tout d'abord, il y a une égalité. Que je vole quelque chose de petit comme un œuf, que je vole un bœuf, vous savez que c'est déjà plus difficile de cacher un bœuf dans sa poche. Eh bien, ça veut dire qu'il y a déjà une égalité. J'ai volé ou j'ai pas volé? Même si c'est un œuf et que c'est pas grand-chose, j'ai volé. Et deuxièmement, ce que nous veut nous dire Timéo, c'est que le proverbe également nous laisse entendre que si je commence à voler des petites choses, je vais finir tôt ou tard par en voler de grandes. Et ça aussi, c'est la raison pour laquelle vos parents vous invitent à bien vivre et à bien vous comporter. C'est parce que quand on commence à prendre une mauvaise habitude, eh bien, on va devenir doué dans cette mauvaise habitude. Et si je commence à voler, ben, petit à petit, je vais devenir doué pour voler. Et je risque, après avoir volé un œuf, un jour de me retrouver à voler un bœuf. Donc du coup, le commandement nous dit « Tu ne voleras pas ». Ai-je pris ou cherché à prendre quelque chose qui n'était pas à moi? Des friandises, de l'argent? Ai-je abîmé exprès ce qui ne m'appartenait pas? Parce que ça aussi, ça fonctionne, c'est quasiment du vol. Un ami m'a prêté tel jeu ou telle chose et j'en ai pas pris soin. Mais ce n'était pas à moi pourtant, mais je m'en fiche, ce n'est pas à moi. Mais justement, c'est parce que ce n'est pas à moi que je dois faire d'autant plus attention. Ai-je triché au jeu? Oui, c'est comme voler. Ah ben non, il ne faut pas le dire maintenant. Ai-je copié en classe? C'est aussi voler l'intelligence ou les réponses des autres, hein, copier quelqu'un. Je vole les bonnes réponses des autres. Est-ce que j'ai donc copié en classe un examen, un devoir? Est-ce que j'ai pris le cahier de quelqu'un pour vite recopier l'exercice de mathématiques que j'ai pas fait et faire croire au maître que c'est moi qui l'avais fait? Quand j'arrive au tableau, je sais pas le faire, par exemple. Donc vous voyez, dans toutes ces idées-là, où se trouve mon péché? Est-ce que vous avez des questions?